Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Fait mémoire aujourd'hui de saint Thomas d'Aquin, c'est un des très très grands de l'Église qui a vécu au XIIIe siècle. Il est docteur de l'Église et on l'appelle de plusieurs noms, le docteur angélique, le docteur commun, commun à toute l'Église, et puis aussi le docteur de l'Eucharistie, parce qu'il a écrit des traités très profonds que l'Église a repris après, hein, sa manière de concevoir, elle a été reprise par l'Église pour son enseignement officiel sur l'Eucharistie. Alors c'est un géant de la sainteté. Pourquoi il a réussi à faire de si belles méditations, de si belles explications? Ben, c'est que ce n'était pas seulement un intelligent très 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 fort, c'était un saint. Hein, l'intelligence c'est très bien, le Seigneur nous la donne, il faut la mettre au service de Dieu, mais elle peut être un obstacle, hein, elle peut se dévier et devenir orgueilleuse. Hein, c'est seulement les intelligences des saints qui sont dignes d'éloges. On raconte que quand il y avait une difficulté théologique, saint Thomas, il passait des heures à essayer de la résoudre, et puis quand c'était trop dur, il descendait à la chapelle, il allait coller sa tête près du tabernacle et il disait « Jésus, enseigne-moi, explique-moi, montre-moi, je ne comprends pas ». Vous voyez, il avait beau être un génie absolument incroyable, il y avait l'humilité de savoir que tout venait de Dieu. Hein, son intelligence, c'est Dieu qui lui avait donné. Ce n'est pas lui qui s'était donné cette intelligence. Hein, c'était pour le bien de l'Église. Ce n'était pas pour lui-même, c'était pour le bien de l'Église. Alors on raconte quand il était jeune, hein, sa famille a voulu l'empêcher de devenir dominicain, parce que c'était les ordres mendiants qui venaient de naître. Hein, et c'était nouveau. Avant, c'était traditionnellement les ordres monastiques classiques, hein, bénédictins, cisterciens, etc. Et là, des ordres mendiants, parce que les moines, ils travaillaient de leurs mains. Et les ordres mendiants, par essence, ne travaillent pas de leurs mains, ils vont mendier leur nourriture. Et donc, ça a perturbé un petit peu l'Église en disant, mais peut-être qu'ils sont paresseux, ou peut-être qu'il y a un problème. Ils se sont fait un peu persécuter. Hein. Les deux communautés frères, franciscains et dominicains, se sont fait un peu persécuter. Et heureusement, ils ont eu des grands, grands, grands génies pour défendre hein, la bonté, la réalité, vérité de ces ordres mendiants. Donc du côté saint franciscain, c'est saint Bonaventure. Et du côté des dominicains, c'est saint Thomas d'Aquin. Alors ses parents étaient anti, ils ne voulaient pas qu'il devienne dominicain. Et donc ses frères, il était d'une famille noble, hein, près de Naples. Et donc sa famille à ses frères, ou ses cousins, je ne sais plus, sont allés le capturer sur la route. Il était en train d'aller au couvent des Dominicains, ils l'ont capturé pour le ramener au château, et ils l'ont un peu enfermé, séquestré. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont fait venir une charmante jeune fille, qu'ils ont introduit dans sa chambre. Et alors il y avait une cheminée dans sa chambre, et il est allé prendre un tison, et il approchait de la jeune fille en hurlant, et elle est partie en courant. Donc, tentation vaincue. Hein, et pourquoi je vous raconte ça? C'est que, vous savez, pour l'intelligence, le plus grand obstacle à l'intelligence, pour la lumière de la foi et tout ça, c'est l'impureté. C'est ce qu'il explique hein, dans sa somme de théologie, ou je ne sais plus où, que la fille de la luxure, c'est l'aveuglement de l'esprit. Donc, vous voyez, les péchés de luxure entraînent un aveuglement. On ne comprend plus, on est aveuglé. Voyez. Et donc, s'il a été si saint et si saint dans son intelligence, c'est qu'il a eu une pureté angélique avec cette grâce, hein, de ce combat, un combat fort à un moment donné, qu'il a gagné avec la grâce de Dieu et qui a fait qu'il n'est jamais tombé dans un péché d'impureté volontaire. Hein. Il peut y avoir des tentations et tout ça, mais il n'est jamais tombé. Et donc, c'est ça qui lui a permis d'avoir cette clarté, cette capacité de pénétrer le mystère de Dieu. Hein, c'est lié à la chasteté. Vous voulez être fort en foi et en intelligence, il faut être chaste. Il faut s'approcher de Dieu qui purifie, hein, parce que la fille de la luxure, c'est l'aveuglement de l'esprit. Alors, il a donné énormément à l'Église. Il est le docteur de l'Eucharistie. Alors, je voudrais continuer avec cette vie qu'il allait chercher lui-même à l'Eucharistie, que nous devons nous-mêmes aller chercher à l'Eucharistie, par la Sainte Communion. C'est ce qui va se passer dans quelques instants. Alors, le père Daniel Ange raconte cette histoire. Aurélie, 5 ans, veut faire sa première communion. On lui demande « Qu'est-ce que cela va changer pour toi de recevoir le corps de Jésus ?» Elle répond « Depuis que je suis petite, j'ai une moyenne lumière dans mon cœur. En mangeant le corps de Jésus, j'aurai une grande lumière. Et à chaque fois que je recevrai Jésus, cette lumière grandira. C'est comme pour mon corps. Chaque fois que je mange, mon corps grandit. Avec Jésus, c'est pareil. » Chaque fois que je mangerai son corps, sa lumière grandira dans mon cœur. Elle a bien compris, hein ? 5 ans, hein ? C'est étonnant, les enfants. Hein ? C'est vraiment étonnant. Hein, je fais le catéchisme et il y en a une petite qui est vraiment douée. Le Seigneur, là, elle est en CP. Et on parlait de Jésus qui se fait baptiser. Hein, je disais, mais vous savez, Jésus, il est saint, il n'a pas besoin de baptiser. Alors pourquoi il a voulu se baptiser ? 6 ans. Parce qu'il a voulu faire comme s'il était pécheur. Waouh, waouh, c'est très vrai théologiquement, 6 ans, imaginez, incroyable, hein? Bon. Alors un philosophe athée, Feuerbach, a dit « L'homme est ce qu'il mange ». Alors il voulait affirmer par là son matérialisme, athée, vous voyez, il n'y a que la matière qui compte, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Mais on peut récupérer cette phrase et l'appliquer d'une certaine manière à l'Eucharistie, à la Sainte Communion. C'est ce que dit Saint Grégoire le Grand. Notre participation au corps et au sang du Christ ne tend à rien d'autre qu'à nous faire devenir celui que nous mangeons. On devient celui que l'on mange. C'est les pères de l'Église qui parlent de cette vision-là. Beaucoup de pères de l'Église. Hein. Ils disent le principe vital. Le plus grand assimile le principe vital le plus faible. Alors quand je fais les homélies pour la première communion ou quand je prépare les enfants à la première communion, je leur dis, les enfants, imaginons que maman et papa ils vous font la cuisine tous les jours pendant 3 ans du poulet, chaque repas, petit-déj, déjeuner, dîner. Est-ce que vous allez vous transformer en poule? Non. Est-ce qu'il y a des ailes qui vont pousser? Est-ce que vous allez faire pot, 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 pot? Non. Parce que vous êtes le principe vital supérieur, l'être humain est supérieur aux animaux, et donc on assimile, on transforme le principe vital inférieur en nous, ok? Mais quand on communie, qui c'est le principe vital supérieur? C'est nous ou c'est le Seigneur Jésus? Évidemment, c'est le Seigneur Jésus. Donc en fait, quand on mange Jésus, c'est plus lui qui nous mange que nous qui le mangeons. Et c'est lui qui va nous digérer, c'est une comparaison, hein, nous assimiler, nous transformer en lui. Hein, heureusement qu'on ne change pas Jésus en nous. Pauvre Jésus. C'est l'inverse. C'est lui qui nous change. Enfin, voilà, il nous transforme. Incroyable. C'est ce que rappelle l'Épître aux Philippiens. Il dit « Ayez les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus ». Eh bien, voyez, en nous assimilant, en nous transformant, eh bien, il va nous avoir, petit à petit, on va avoir les mêmes sentiments, on va vraiment ressembler, devenir d'autres petits Jésus. Alors, le père Cantalamessa, le grand capucin qui prêche au pape depuis 40 ans, ça doit être un bon prédicateur, hein, parce que Jean-Paul II, pendant 27 ans, Benoît XVI l'a gardé, et François l'a gardé. Ça fait 40 ans qu'il prêche au pape. Ça doit être un bon. Hein. Il y a la curie, enfin voilà, il prêche au Vatican. Et alors il dit, Il prend l'image du cœur pour essayer de comprendre ce qui va se passer au moment de la Sainte Communion. Je cite, « Jésus nous assimile ainsi parce qu'il fonctionne comme le cœur du corps mystique qu'est l'Église. Quel est de fait le rôle du cœur dans notre organisme ? Il reçoit de toutes les parties du corps un afflux de sang vicié, appauvri des éléments vitaux, mais chargé de tous les résidus toxiques de l'organisme. Dans les poumons, ce sang, au contact de l'oxygène, est comme passé par le feu, ainsi régénéré et enrichi de substances nutritives, il est inlassablement rendu à tous les membres par la force du cœur. Eh bien, il en va de même dans le domaine spirituel, pour l'Eucharistie, qui est le cœur de l'Église, le Christ vivant. À chaque messe, Jésus reçoit un afflux de sang vicié de partout. C'est nous, nos péchés, nos misères. Au moment de communier, je jette en lui mon péché, tout ce qui est impureté en moi pour qu'elle soit détruite, et lui me rend un sang pur, son propre sang, le sang de l'agneau immaculé, plein de vie et de sainteté, remède d'immortalité. » Alors ça, c'est valable pour les péchés véniels. Je vous rappelle que si on a un péché grave, ça ne marchera pas. Il faut d'abord aller se confesser. Ça, c'est pour les misères de tous les jours. Toutes les petites pollutions de notre cœur, ça fait la transformation. Le sang, Jésus nous transforme et c'est le cœur de l'Église. Et voilà, j'apporte ma misère, il me redonne son sang purifié, sanctifié. Alors Jésus dit qu'il nous ressuscitera à la fin. Je termine la citation précédente avec le remède d'immortalité. La Sainte Communion est un remède d'immortalité. Il y a plein de personnes qui cherchent des choses, des produits magiques pour rester jeune. Ben, ça ne marche pas. Tout petit peu peut-être. Enfin bon. Le vrai remède d'immortalité, c'est l'Eucharistie. Saint Cyril d'Alexandrie, Père de l'Église lui aussi, nous ressusciterons puisque le Christ est ressuscité. Il est même impossible que la vie ne vivifie pas ceux en qui elle se trouve. Ben oui, on a la vie avec un grand V. Elle est impossible qu'elle ne vivifie pas là où elle est. De même qu'on jette l'étincelle dans la paille pour conserver la semence du feu, ainsi notre Seigneur Jésus a caché en nous la vie grâce à sa chair. Il l'a enfouie comme une semence d'immortalité, qui nous purifie de toute corruption. Donc plus on communie, plus on prépare notre future résurrection de notre corps. Voilà le but de la vie, donc être transformé par la Sainte Communion en un autre petit Jésus. C'est ça le but, la vocation de chacun. Et donc, à cause de l'Eucharistie, il n'y a plus dans le monde de vie inutile. Personne ne devrait dire « À quoi bon ma vie ? Pourquoi suis-je né ?» Eh bien, tu es né pour le but le plus beau qui soit, être un sacrifice vivant, une Eucharistie, en même temps que Jésus. Amen.